Donc bonjour Fred.
Bonjour.
Comment est-ce que tu es amené à travailler à la radio?
Eh bien, écoute, en fait, ça s'est passé après l'élection de François Mitterrand en mai 81. Il se trouve que j'étais étudiant à l'époque et on s'est dit avec mon frère et un de ses copains, eh ben tiens, on va faire une radio. On n'avait jamais fait de radio, ça nous intéressait pas du tout parce qu'il y avait des périphériques et et le groupe Radio France qui ne plaisait pas du tout. Du coup, et puis en fait, bah, de fil en aiguille, on a décidé de lancer le projet vraiment en octobre 81. Donc on a dit qu'on allait, moi j'étais en sciences éco, j'ai dit à ma banque que j'allais faire un voyage pour mes études aux États-Unis. On a emprunté 15 000 francs chacun et puis on a loué un appart à Hérouville sur une tour en hauteur. On a trouvé du matos d'importation italien à Paris parce qu'il n'y avait pas de radio en France, il commençait à y en avoir en Italie. Et puis on a mis les metteurs dans la cuisine, l'antenne sur le toit, on a mis une table de mixage, des platines, des micros, et on a débuté le 12 février 1982. C'était un vendredi soir, parce qu'en fait mon frère et moi on était pions, et là on avait 15 jours de vacances. Et en fait, on a décidé de commencer à émettre 12 heures par jour, on était 3. C'est-à-dire qu'on prévoyait de faire 4 heures par jour, 7 jours sur 7, à vitam aeternam. Voilà comment c'était parti, en fait. Et l'idée, c'était de faire une radio rock, donc on passait la musique qu'on aimait, voilà. Donc un format musical dès le début, quoi. Voilà le début, en fait.
Et du coup, là, tu viens de parler des débuts de la radio UHT, sur quand?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous dire si tu as travaillé dans d'autres radios et à partir de quand? Parce qu'il me semble que UHT s'est dissous et est devenu Énergie aussi au bout d'un moment.
Ah oui, là, on est aux prémices de l'histoire. Là, on est en février 1982. Donc là, effectivement, c'est le tout début de l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui par rapport à cette époque-là, c'est qu'en fait, il n'y avait aucun cadre de loi. C'est-à-dire que, en fait, dans sa campagne électorale, François Mitterrand a dit qu'il libéraliserait les ondes. Sauf que, entre mai 81, où il a été élu, et tu retrouveras les dates mieux que moi, mais à mon avis, je pense que c'est au mieux en octobre 83 qu'a été créée la haute autorité de l'audiovisuel. C'était un flou total, c'est-à-dire que en fait tu mettais à émettre, tu choisissais ta fréquence et puis basta quoi. Donc voilà comment ça c'était vraiment les débuts. Donc il y avait quelques radios qui émettaient. C'est vrai que l'avantage c'est qu'il y avait peu de radios, donc même on avait un 100 watts, nous on émettait vachement bien, on était reçus sur le Havre, etc. On était bien placés. Et puis après, il y a eu la création de la haute autorité là-dessus. Nous, en fait, on n'avait jamais fait de radio avant. On n'avait aucune compétence particulière dans le domaine. Mais quand il y a eu des dossiers à faire pour avoir une fréquence officiellement, en fait, il y a eu des tas de gens qui ont fait des dossiers super sophistiqués. Nous, on a dit, on est là, on a des auditeurs, point barre, quoi. Et ils nous ont donné la fréquence. Voilà, on a eu la première fréquence. Ensuite, effectivement, après, on aimait bien faire de la radio, c'était cool, mais il n'y avait aucune ressource de prévue pour ce genre de radio. Donc, en fait, tous les animateurs de l'unité de cotisation, ça payait l'électricité et le loyer, quoi. Voilà, c'était un peu précaire comme situation. Du coup, on a commencé quand Énergie, au niveau national, a commencé à faire de la pub en 84, ce qui était formellement interdit par la haute autorité, nous on a commencé à faire de la pub aussi, sauf qu'une radio rock sur Caen, à l'époque les radios c'était considéré un peu comme du vent, quoi. En termes d'impact publicitaire, hein, je parle. Donc c'était pas évident, et puis dès la fin de l'année 84, on a été fortement dragué par Énergie pour créer une franchise à l'époque, Énergie sur Caen. Et puis on a fini par craquer en mai 85. Et là, donc on a créé la franchise Énergie. D'un point de vue personnel, en fait, bah moi j'ai arrêté complètement de faire de l'antenne à cette époque-là, parce que là ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai complètement quitté l'antenne et je me suis occupé de tout ce qui était communication, promo, voilà, sur les gestions à l'occasion de la radio. Ceci dit, c'était très intéressant parce que bon, ça cartonnait, on faisait plein de trucs et on faisait vivre une radio, quoi. Donc on était totalement indépendant, donc c'était assez intéressant. D'autant que l'année suivante, en 85, ça c'était en mai 85, en 86, il y avait une autre radio de Caen qui vivotait depuis des années, qui nous a demandé si on pouvait faire quelque chose. En fait, ils nous filaient leur fréquence en échange du fait de garder un de leurs animateurs qui voulait absolument continuer à faire de la radio. Et on a créé une nostalgie sur Caen en octobre 86. Du coup, on s'est occupé en parallèle des deux. Et donc là, en fait, c'était assez intéressant. C'était encore un autre format, mais c'était le fait de gérer des différentes radios. Sur ces entrefaits, je crois que la droite est passée au pouvoir. Il y a eu le CSA qui a été créé. Ça, c'était alors après, avant, il y a eu en 88, on a récupéré également la fréquence d'Europe 2. Donc là, on avait trois radios sur Caen dans un immeuble rue des Croisiers. C'était assez rigolo à gérer, avec des équipes commerciales à chaque fois et trois équipes d'antennes différentes. Et puis, donc, il y a eu le CSA qui a été créé quand la droite est repassée au pouvoir. Et là, il y a eu une redistribution des cartes. Énergie ne voulait plus nous accorder de franchise, mais voulait créer une filiale sur Caen. Et donc, nous, on a revendu Énergie. Moi, j'ai racheté l'intégralité de Nostalgie Caen, à cette époque-là. Et puis, Europe 2 a été réattribuée à quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a eu, bon, ça a été un gros changement au niveau des fréquences en fin 90. Et puis moi, je suis resté sur Nostalgie, qui petit à petit a intégré le réseau national. Du coup, je suis devenu directeur d'antenne régionale, pour lequel j'ai créé Nostalgie Rouen. Et puis Nostalgie Le Mans, avec trois fréquences sur la Sarthe. Voilà, et donc là toujours m'occuper de la gestion et de tout ce qui est promo, communication. Et puis ensuite, en fait, le réseau Nostalgie a été racheté par le réseau Énergie en 98, je crois. Et bah, j'ai fait la même chose pour le groupe Énergie une année, et puis après là c'était devenu très chiant, quoi. Enfin, c'était plus du tout le même fonctionnement qu'avec le réseau Nostalgie. Donc là j'ai arrêté la radio à cette époque-là, après une vingtaine d'années, quoi, fin 99. Voilà un peu mon histoire de radio.
Et du coup, là, à l'heure actuelle, tu continues à travailler pour certaines radios, on va dire, associatives dans le bassin normand ?
Non, pas du tout. Non, j'ai pas trop eu le temps, et puis... j'ai fait des trucs avec 666 sur Caen, voilà, local. Mais bon, là, je travaille pour des salles de concert, en fait, donc bon, c'est quand même dans le même métier, et puis ça m'intéresse. Et puis, bah, ça fait 40 ans que j'ai fait ça, donc c'est bon, quoi. J'en ai fait 20 ans, donc moi, j'ai fait à peu près tous les métiers en radio, donc je pense que, voilà, j'ai fait un peu le tour aussi, quoi. Là, ce que je fais, c'est nouveau, et puis ça me plaît, hein, donc... voilà, donc non, j'ai pas de nostalgie par rapport à la radio. Je n'ai aucun regret par rapport à ce qui s'est fait, c'était très sympa. C'est une très très belle aventure. Mais voilà, sans regret non plus, quoi. Mais voilà, j'ai pas trop de disponibilité pour faire ça, peut-être dans mes vieux jours. Je ferai des émissions de vieux groupes des années 70-80.
Pourquoi avez-vous décidé d'appeler la radio UHT?
Parce que c'était une radio rock au pays du lait. Donc c'était comme le lait UHT, ultra haute température.
D'accord, et vous aviez, on va dire, des objectifs avec les autres fondateurs de radio UHT, à part diffuser justement de la musique rock?
Enfin, alors, si on revient sur UHT proprement parlé, c'est-à-dire en fait qui a duré 3 ans et 3 mois, en fait. Oui, quand on a commencé UHT, en fait, je te disais, on a commencé à 3 en envisageant de faire 14 antennes par jour, tous les jours. Mais en fait, dès le lendemain, il y a un premier gars qui nous a appelé en disant c'est super ce que vous faites, je veux venir. Et en fait, dès le premier week-end, au bout de 3 jours, on avait déjà constitué une petite équipe d'animateurs. On a pu constituer une grille de programme assez rapidement. Et puis, dès le début, en fait, dans la logique des choses, les groupes de Caen qui faisaient de la musique, qui ont fait des disques et des choses comme ça, nous ont contactés aussi. Moi, du coup, j'ai fait une émission avec un petit peu d'ironie qui s'appelait L'écho du brouillard, qui toutes les semaines présentait un groupe, un album qui sortait, un concert qui allait se faire. Et de fil en aiguille, pour le 2e anniversaire de la radio, on a sorti la première compile de groupe de Caen, qui s'appelait Rock à Caen 93, 13 Rock à Caen. Et c'est sorti pour le 2e anniversaire du HT, c'est-à-dire le 12 février 84. Et là, c'était donc un vinyle, tiré à 1000 exemplaires. Je pense qu'il y avait un peu, on avait dû faire un peu sous forme de souscription, c'est-à-dire que chaque groupe pré-achetait 10 albums, à un tarif préférentiel, ce qui finançait le truc. Je me souviens qu'on avait fait presser, d'ailleurs, près d'Alençon, à Tourouvre, et que j'étais venu avec ma vieille 504 charger les vinyles dans ma voiture pour économiser les frais de transport. Et ça a été la meilleure vente à Caen en février 84 dans le seul magasin qui s'appelait Nugget, au California Music, je sais plus. Voilà, ça c'était le... Du coup, on a fait une deuxième compile l'année suivante, début 85. Et puis après, on est passé énergie en mai 85, donc voilà, cette histoire s'est arrêtée. Après, il y a pas mal de gens qui ont repris le concept de faire des compiles de groupes. Et aujourd'hui, en fait, c'est le Cargo qui fait ça. Il fait chaque année une compile avec des groupes de Caen.
D'accord, ok. Est-ce que tu penses que c'est un de tes souvenirs les plus mémorables ou est-ce que tu en as un autre que tu voudrais nous partager avec UHT ou avec une autre radio?
Ah si, si j'en ai un mémorable qui me fait bien marrer encore avec le recul. C'était on a vu, il y avait des gens qui passaient faire des émissions, je suppose que chez vous aussi c'est pareil, il y a toujours des gens qui viennent proposer de faire des émissions. Et nous on était vraiment sur le format musique rock et puis pas de blabla, quoi, vraiment pas de parole, quoi. Et on avait 3 mecs qui étaient venus nous proposer une émission et vraiment, ils faisaient une émission, enfin, du France Inter, c'est-à-dire qu'ils avaient travaillé ça pendant toute la semaine, il y avait des montages, etc. C'était vachement bien fait, tout ça, mais ça correspondait pas. Enfin bon, c'était bien, hein, on l'avait laissé à l'antenne, tout ça. Et puis, un soir, j'étais chez moi à Caen, le mec, il dit, Jim Morrison, des Doors, c'est ça, qui était fan d'Edith Piaf. Et là, le mec nous balance un Edith Piaf à l'antenne, quoi. Donc, un truc qui s'était jamais vu, quoi. Bon, j'appelle la radio, il y avait Marc, un des créateurs qui était là. Je me dis, il va lui dire, oh, c'est pas, on ne passe pas ça, quoi. Même si Jim Morrison aime bien, bon, c'est pas le truc de la radio. Mais. Mon créateur. En fait, j'ai entendu le téléphone tomber, j'étais en train d'écouter la radio, et tout d'un coup, j'ai entendu mon Marc à l'antenne qui disait elle a une belle voix, la petite dame, et puis qui a balancé un clash, les mecs sont partis. Ça, c'était une anecdote qui m'a toujours fait marrer.
Est-ce que tu te souviens de la première chanson que vous aviez diffusée avec UHT?
Ah ouais, ça me souvient, ouais. Alors on avait dit qu'on diffuserait le 12 février à 18h. Et à les 9 minutes avant 18h, on a diffusé O Superman de Laurie Anderson. Et le premier morceau qu'on a diffusé, c'était un morceau du Velvet Underground sur le Double Live 69, We Gonna Have a Real Good Time Together. Monitoire.
Et est-ce que tu penses que ce titre de chanson, il signifie ce que tu as vécu à la radio? Passer du bon temps ensemble, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. C'était le projet, c'est ce qui s'est passé, oui, exactement, oui. Et que les gens en profitent aussi à l'antenne, quoi. Hein?
D'accord. Et pour toi, la radio, ça signifie quoi à l'heure actuelle?
Écoute... Ouais, ça reste un bon espace de liberté. Moi, j'ai... bah, écoute, c'est rigolo, parce que j'ai mon fils aîné qui fait toujours de la radio, mais alors lui, sur Bazarnum, à Caen, en mode contestataire, le monde est pourri, quoi, tu vois, ça. J'ai un autre fils qui a fait, enfin, qui en fait plus en ce moment, mais qui a fait des années des émissions de rap sur différentes radios de Caen également. Et j'ai ma petite dernière, en fait, qui est journaliste professionnelle sur France Inter. Donc, tu vois, il y a une petite hérédité quand même dans la famille. Voilà, parce que j'avais fait cette radio, mais j'étais avec mon frère au départ.
Donc, la radio, c'est vraiment une histoire de famille chez vous.
On dirait, oui.
Pourquoi est-ce qu'il faut écouter la radio selon toi?
Ben, parce que c'est quelque chose qui peut laisser l'imaginaire aux gens. C'est-à-dire que, tu vois, c'est la différence entre lire un bon livre et voir le livre au cinéma. C'est-à-dire que. Quand tu lis un livre, bah, tu peux t'imaginer les paysages, les personnages, comme tu te les imagines toi. Quand tu les vois au cinéma, c'est l'imagination de quelqu'un d'autre qui s'est projeté dessus. Et je trouve que la radio, par le fait de la musique qui passe, voilà, c'est plus, c'est moins casse-patreur que la télé, par exemple, qui te formate forcément. Voilà, bon, je sais pas.